Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En octobre 1907, Rainer Maria Rilke, alors installé à Paris, se rend au Salon d'automne. Tu sais que, dans les expositions, je trouve toujours les gens qui vont et qui viennent plus remarquables que les peintures, écrit-il à sa femme Clara. Il en va de même dans ce salon d'automne, à l'exception de la salle Cézanne. Là, toute la réalité est de son côté. Dans ce bleu épais et ouaté qu'il a, dans son rouge et dans son vert sans ombre, et dans le noir rougeâtre de ses bouteilles de vin. Pendant plusieurs semaines, Rilke revint au salon voir l'étoile de Cézanne et écrivit au sujet du peintre. En 1978, pour les Nuits magnétiques, Jean Dève eut la belle idée de faire de ses lettres le fil rouge d'un documentaire. Avec l'historien de l'art Jean Clair, l'artiste Jörg Ortner et le poète Jean Tortel, il évoquait la série consacrée à la montagne Sainte-Victoire, les tableaux réalisés sur motif dans le parc du Château Noir et à la carrière de Bibémus, ainsi que quelques natures mortes aux pommes. Entre autres hypothèses stimulantes, pour décrire la relation du peintre à la célèbre montagne provençale, Jean Tortel émet l'hypothèse que Cézanne en avait peur. Paul Cézanne, par Jean Dève, un documentaire réalisé par Bruno Sourcy et diffusé originellement en deux volets dans les Nuits magnétiques des 20 et 21 juillet 1978.
Aujourd'hui, je voulais te parler un peu de Cézanne, pour ce qui est du travail. Il prétendait avoir mené la vie de bohème jusqu'à 40 ans. Alors seulement, grâce à la rencontre de Pissarro, lui serait venu le goût du travail. Mais désormais si fort qu'il n'a plus fait que travailler durant les 30 années suivantes. Ce qui emporte la conviction, la transformation en chose, l'exaltation de la réalité rendue indestructible à travers l'expérience que le peintre a de l'objet. Voilà où il situait la fin de son plus intime travail, vieux, malade, usé chaque soir jusqu'à l'épuisement par le travail quotidien, au point qu'il se couchait souvent à 6 heures, à la tombée du jour, après un repas distrait, irritable, méfiant, moqué et maltraité chaque fois qu'il se rendait à son atelier.
Ce qu'on peut remarquer effectivement, c'est d'abord ce phénomène de la série qui inaugure et qui caractérise une nouvelle période. Je ne sais pas si on peut parler de rupture par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Ce problème des ruptures, je crois qu'il faudra y revenir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu rupture ou est-ce qu'on a l'impression a posteriori d'une rupture? Quand le fait est que la peinture classique ignorait le phénomène de la série, il arrivait qu'un peintre refaire une œuvre dans la mesure où cette œuvre était précisément un chef-d'œuvre, et par conséquent ce chef-d'œuvre donnait naissance à des répliques, à des réduplications, et même à la limite il arrivait qu'un grand peintre permît à l'un de ses élèves de redupliquer une de ses œuvres. Donc on peut avoir de tel ou tel motif classique plusieurs exemplaires, mais ces exemplaires étaient précisément permis par l'idée qu'existait le chef-d'œuvre. Donc par conséquent, la conformité à un modèle qui était en quelque sorte un modèle abstrait. À partir de Cézanne, au contraire, l'idée de chef-d'œuvre disparaît complètement. Il y a cette espèce de volonté perpétuelle de revenir sur le motif, de revenir à la nature et d'épuiser un sujet qui, par nature même, précisément, ne s'épuise pas. D'où cette série précisément de Sainte-Victoire. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être d'approfondir, c'est la spécificité de la série chez Cézanne par rapport à d'autres séries chez des peintres contemporains de Cézanne. Par exemple, Monet, lorsque Monet fait ses séries de peupliers, lorsqu'il fait ses séries de meules de paille, ou lorsqu'il fait ses séries à la fin de sa vie de nymphéa, à peu près au même moment où Cézanne fait ses Saintes Victoires, Est-ce que la méthode est la même? Est-ce que le point de vue est le même? Est-ce que le projet est le même? Ou est-ce qu'il s'agit de deux domaines différents? Mais en tout cas, je voudrais poser ce phénomène de la série comme un trait constitutif de l'art moderne et contemporain, dans la mesure où aujourd'hui, l'idée du chef-d'œuvre n'existe plus, l'idée du tableau qui ramasse, qui recueille une expérience n'existe plus, et qu'au contraire, l'œuvre semble se déployer à travers une reprise indéfinie, indéterminée et infinie même, d'un motif, et on peut aller jusqu'à des exemples récents. Reinhardt, c'est la même, c'est une série de tableaux sur un même motif. Albers, c'est le carré comme série, et ainsi de suite.
Il y a le bleu très particulier de Cézanne, un bleu très particulier parce que sans la moindre signification accessoire, un bleu pris dans la série, donc dans son récit. Comment une série peut-elle raconter trois couleurs, le bleu, le vert, le blanc, quand le jardin d'ici est noir totalement, le jardin de l'atelier des Laudes.
Assez extraordinaire, peut-être une espèce de, je ne dirais pas de cristallisation parce que c'est le contraire d'une cristallisation, une espèce de concentré terrible de certains jardins méditerranéens où qui ne peuvent vivre que dans une obscurité. Que dans un noir total ou quasi total, et ce noir, on sait qu'il va s'interrompre, enfin que la lumière éblouissante est exactement au-dessus. C'est assez extraordinaire. De même que je suis frappé par l'humidité du jardin dans cette colline très sèche, cette colline de cyprès, d'olivier, cette colline très sèche, la terre est humide. Et d'ailleurs, quand nous nous enfoncions dans les allées, on avait l'impression d'une espèce de dislocation presque pré-cubiste déjà, des allées, des pierres, les angles faux, les obliques, les marches jamais parallèles, enfin tout est disloqué, tout est noir, et en même temps on a l'impression d'un ordre parfait. Enfin, c'est très émouvant dans sa contradiction. Je crois qu'il y a une contradiction. Les troncs, les futs des pins, il y a une aquarelle où il y a un tableau de Cézanne, je ne sais pas s'il a été fait là, mais c'est exactement ça, avec ces espèces, et puis ce treillis de feuillage derrière lequel le ciel apparaît dans toute sa violence, une violence très pure du reste, et ces troncs, ces futs qui s'en vont en oblique comme ça, c'est exactement le motif cézannien. L'atelier de Cézanne, l'atelier lui-même, donne à l'arrière de cette maison, assez modeste, assez mince, assez maigre la maison, et qui fait contraste avec l'épaisseur et la profondeur du jardin.
Il y a quand même des couleurs qui sont extraordinairement dominantes. Enfin, le jardin est dominé par le noir et l'atelier est dominé par... Le gris.
Un gris clair, un gris très clair, oui. C'était nécessaire probablement. une couleur très neutre et très... puisque tu peignais là-dedans. Alors, l'espace du lieu où la peinture se fait et l'espace du lieu, le jardin, d'où la peinture surgit des profondeurs, ne sont pas seulement juxtaposés, mais ils sont en quelque sorte, ils s'équilibrent et ils se combattent probablement en même temps.
De quoi est fait ce combat selon vous ?
De quoi est fait ce combat ? Bien, je crois de la cette espèce de combat nécessaire entre le regard, l'objet et le texte, enfin le texte pictural en l'espèce, une espèce de peut-être d'incompatibilité entre les trois et d'une nécessité violente de les accorder, si vous voulez, peut-être. Ce serait l'ombre, l'obscurité du jardin, les ténèbres du jardin qui finiraient par avoir le dessus. Mais là, oui, je pense, j'ai aussi cette impression, sauf que les lignes verticales, ou plutôt obliques, il n'y a pas un arbre vertical, tous les futs des pins sont obliques, reconstituent le motif cézannien. Alors là, la question se pose, quel est l'acte primitif ? Est-ce l'arbre qui pousse comme ça ? Qui pousse avec ses obliques, avec ses inclinaisons, avec son treillis de feuilles, ou est-ce Cézanne qui l'a vu ? Et est-ce que nous ne voyons pas l'arbre par Cézanne ? Ou si nous voyons Cézanne par l'arbre ? Ou par le treillis d'arbre ? C'est le problème du pays et de tout ce paysage. Ici, nous avons dépassé le Toulonnais. Nous nous sommes engagés sur la route. Nous avons une ombre très légère qui n'est plus du tout l'ombre du jardin, qui est le contraire de l'ombre du jardin. Elle est légère, c'est un treillis d'ombre et de soleil. Et nous sommes dans un espace beaucoup plus... moi qui me rassure beaucoup plus. L'espace du jardin est une chose assez terrible. Elle est noire. Ici, c'est une espèce de clarté qui monte des arbres ou qui descend du ciel, je ne sais pas. Enfin, il fait très beau. Mais ce que je suis en train de me demander, enfin, c'est que est-ce que nous voyons ce paysage qui en lui-même est beau? Ces rochers rouges à côté ressemblent fort aux carrières de Bibémus. Ces rochers rouges avec ces espèces de strates de calcaire ou de je ne sais trop quoi, on dirait des rochers de Cézanne. Alors, partout, nous retrouvons Cézanne. Alors, est-ce que nous voyons ce paysage à travers Cézanne, ou par Cézanne, ou pour Cézanne, ou à cause de Cézanne? Ou bien est-ce qu'il existe réellement ?
Le lendemain, il n'en recommençait pas moins le combat. Il se levait tous les matins à 6 heures. Traverser la ville pour gagner son atelier, où il restait jusqu'à 10 heures. Puis il revenait par le même chemin pour déjeuner, mangeait, repartait. Souvent, à une demi-heure de route de son atelier, sur le motif, dans une vallée au fond de laquelle la montagne Sainte-Victoire se dressait, indescriptiblement, tâche innombrable. Il restait là des heures, occupé à trouver et à intégrer au tableau les plans dont il ne cesse de parler.
Alors, dans la série de Saint-Victoire, moi, je vois toujours, finalement, disons, si on veut les nommer en chiffres, le chiffre 3, c'est-à-dire, il y a toujours donné ciel, montagne et un sol. Alors, entre la montagne et le sol, il y a une très curieuse fonction qui est toujours traitée. D'ailleurs, on peut regarder tous les tableaux qui sont ici, ce serait coupe dans toute la série. Le sol est toujours divisé en deux ou trois parties. Il y a toujours une ligne solumineuse ou, par exemple, en biais avec une forme de V, ou, deuxième solution, une tache foncée qui est entourée avec une tache lumineuse. C'est-à-dire la division de la partie inférieure renvoie, à mon avis, toujours un principe, évidemment ça paraît une simplification assez énorme, mais toujours un principe féminin, si on peut dire ainsi. Avec en plus la meilleure, en tout cas la réalisation la plus évidente, qu'est-ce qui concerne la périphérie du regard. La perspective s'articule entre une touche qui est cherchée au premier plan, qui est considéré par lui comme la touche la plus proche et autour duquel s'articule l'éloignement. C'est exactement la démarche inverse que dans la perspective classique, c'est-à-dire l'idée du paravent. Il y a un élément éloigné, devant il y a quelque chose, devant il y a autre chose, devant il y a autre chose.
J'aurais tendance à dire que, avec Ortner, je crois que qui fait la complexité et la fascination de ces paysages, c'est que ce sont eux-mêmes devenus quelque part des portraits, que littéralement cette Sainte-Victoire nous regarde autant que s'il s'agissait d'un être humain, enfin qu'il s'établit entre elle et nous un rapport qui n'est plus du tout le rapport d'une observation neutre d'un observateur à un objet inerte, mais que c'est le même espace, au fond, de conjugaison et de communion qui s'étend d'elle à nous. Mais en tout cas, un rapport passionnel, un rapport passionné, un rapport charnel, qui explique d'ailleurs cette espèce d'exaspération qui faisait que chaque matin, puisque c'est le matin que Cézanne peignait, on peut le rappeler, ça explique en partie son chromatisme, à partir de 8 heures du matin jusqu'à midi et pas plus tard, que chaque matin, donc, Cézanne revenait sur le motif indéfiniment, comme une espèce de, dans une espèce d'exaspération presque sexuelle, enfin, vouloir s'emparer de la montagne. Fin d'après-midi, c'est ça, mais jamais la journée, pour des raisons évidemment aussi liées au climat assez terrible d'Aix dans la journée. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'érotique dans son rapport à la montagne qui n'existait pas dans la, me semble-t-il, dans une peinture classique. Alors là, peut-être, on peut brancher là-dessus le problème précisément de la perspective qu'évoquait Jörg Ortner à partir de cette espèce d'inversion que Cézanne fait subir à la facture du tableau, puisqu'il pose la première touche comme celle du point le plus, si j'ai bien compris, rapproché de l'œil.
Ou parfois, on peut même rencontrer, surtout dans les aquarelles de sous-bois, une ellipse qui définit, disons, le premier plan dans toutes les parties à partir duquel le travail s'est fait en profondeur.
Pas cette victoire, si on la voit, il suffit de se retourner. Et elle surgit à travers des pins, toujours oblique, toujours pris. Une description, non, je peux pas. C'est une masse de cristal opaque. L'avantage de cette victoire, je pense que Cézanne en avait peur. Enfin, je dis ça peut-être pour me justifier, parce que j'en ai un peu peur. D'abord, culturellement, je sais que ça a toujours été un temple de divinités disparues, probablement terribles, probablement orageuses, enfin, etc. Et je pense que Cézanne en avait un peu peur. Il l'a toujours... Il rôde tout autour de Sainte-Victoire. Il la peint de loin. Il va jusqu'aux carrières de Bibémus parce que... On dit probablement parce qu'il était chez lui et il était... Mais Sainte-Victoire elle-même, il l'a... Et il finit par la faire disparaître, par les dernières Sainte-Victoire, ce sont trois ou quatre lignes noires, n'est-ce pas, sur du blanc, enfin, purement abstraites. Je me demande si Cézanne ne redoutait pas Sainte-Victoire. Et le ciel au-dessus, aujourd'hui, il est clair. Il est clair, il est rassurant. Il n'est pas... Tandis que c'est le ciel de Cézanne est une chose terrible. Le ciel d'été de Cézanne, c'est le ciel tel qu'on le redoute. Il est toujours... Je ne suis pas surpris du tout que Cézanne ait été un jour frappé par... Enfin, à la fin, ait été frappé par la foudre. Et il est mort quelques jours après, nous savons, enfin, sans avoir rien revu. Enfin, il a été surpris par la foudre sur le motif, mais il est mort 8 jours après. On a l'impression que Cézanne provoquait en quelque sorte le cosmos, l'azur, le ciel. Il en faisait une chose terrible. Alors, qu'était Cézanne à ce moment-là ?
Cézanne, n'est-ce pas le père du cubisme, mais je crois que lorsque l'on regarde, c'est précisément cette série de Sainte-Victoire, on ne peut qu'être convaincu du contraire. Il n'y a vraiment absolument aucun rapport. Parce qu'une fois de plus, c'est un problème de perspective et comme Ortner le disait à l'instant, un problème de profondeur. Un problème de profondeur. La nature existe pour nous en profondeur, dit Cézanne, pas en surface. Or, je crois que l'espèce de problème majeur auquel il s'est perpétuellement heurté, c'est que qui éclate ici dans ces toiles de la montagne précisément comme objet volumétrique qui monte dans, qui occupe l'espace et qui monte dans l'espace, c'est que la perspective classique il la rejette complètement. Il est dans la situation historique de quelqu'un qui n'est plus porté par un système, par un code qui était celui de la perspective classique. C'est-à-dire ces espèces de boîtes d'espace à travers lesquelles une résille et une trame déterminée permettaient de placer chaque objet exactement à son lieu propre, à suo luoghi, comme disaient les Italiens, à son lieu propre, à son emplacement propre, et suivant des écarts mathématiquement déterminés. Ce qui faisait que, effectivement, le peintre classique, jusqu'au XVIIIe siècle, si vous voulez, commence avec une grille préétablie qui lui permet d'éviter en quelque sorte l'angoisse de la création. Pourtant, Cézanne est, se trouvant démuni, dépossédé de cet appareil conceptuel qui avait fonctionné pendant 3 siècles ou 4 siècles, puis qui avait dégénéré, se trouve littéralement face à une toile blanche, au même moment où d'ailleurs Mallarmé se trouve face à la page blanche. Et comment occuper cette toile ? Comment l'occuper en se passant de ce treillis perspectif, en se passant de cette boîte d'espace à l'intérieur de laquelle, comme dans une scénographie, on disposait la naissance des objets. Jörg Ortner, très justement, à mon avis, insiste sur cette façon qu'il a de commencer par une touche qui se trouve être le point le plus rapproché de la vision, et puis autour d'elle d'organiser un espace qui n'est plus du tout un espace homogène. Mais ce qui est très passionnant chez lui, c'est que toujours, tout en ayant affaire à une toile blanche et plate, et non plus à une boîte d'espace, un illusionnisme de la profondeur, il veut respecter précisément le fait que la nature, pour nous hommes, dit-il, est en profondeur et non pas en surface. Or, la modernité, elle, va s'établir sur la base qu'il faut respecter la platitude de la toile et il ne faut surtout pas y introduire une profondeur. Et en particulier, les cubistes seront des gens qui travailleront sur une espèce de damier plat aussi conventionnel que le treillis perspectif dans la peinture du XVIIe siècle. Alors là, il me semble que, et c'est très évident ici, il n'y a aucun rapport que l'on puisse établir entre la peinture de Cézanne et puis cette modernité qui, disons, commence avec les cubistes, cette grande rupture épistémologique, comme on dit, qui serait celle du cubisme.
Je crois cette aventure lente et continue de la première touche et la grande aventure de Cézanne. Parce qu'il y a un rapport tactile, de partir de l'endroit qui est le plus proche ou qui est considéré comme le plus proche et construire l'espace à partir de là. En plus, je trouve aussi que c'est une érotisation sublimée d'envisager la perspective du monde à partir de l'endroit le plus proche. On les voit même dans les portraits. Lorsqu'un plan est plus éloigné, lorsqu'il arrive à partir du genou, il peut par exemple considérer qu'en premier plan, à partir duquel l'espace est construit, est l'endroit du genou. Mais lorsqu'il arrive au plan du visage, de nouveau, il fixe un endroit qui est le nez et qui construit après les visages à partir du nez.
Il pose ses pommes sur des couvre-lits que Madame Brémond cherchera sûrement partout un jour. Et là, au milieu, il dispose ses bouteilles ou ce qui lui tombe sous la main. Et de ces choses, il fait ses seins. Il les force à être belles, à signifier l'univers entier, tout le bonheur, et toute la magnificence du monde. Voilà ce que je voulais te raconter, car ce n'est pas sans de nombreux liens avec beaucoup de choses qui nous entourent et avec nous-mêmes. Il continue à pleuvoir à profusion. Adieu. Demain, je te parlerai de nouveau de moi, mais tu comprends à quel point je l'ai fait aujourd'hui aussi.
Le paysage, ce paysage-ci par exemple, il est architecturé, il n'est pas clos, mais il est architecturé. Nous avons l'impression d'être au centre de quelque chose d'organisé, de construit. Cette organisation fut-elle l'organisation terrible, de cette victoire. Mais tout de même, nous n'avons, pour le Méditerranéen, je crois, là je parle pour moi, mais tu me dis que Cézanne avait peur d'être enfermé. Moi aussi, moi je me sens enfermé dans le paysage de ces pays ci dont je suis. Mais j'éprouve au contraire une impression de soulagement parce que cette fermeture n'est pas complète. Parce qu'il est limité. Et tout paysage, le paysage qui n'est pas limité, me paraît être non plus un corps, mais un lieu métaphysique. Le lieu d'où on lance la flèche, enfin, etc. Et c'est le lieu métaphysique qui m'angoisse. Ce n'est pas la chose limitée, construite comme un corps. Or, tout paysage, pour moi, est une espèce de corps. Alors, peut-être Cézanne avait-il peur d'être enfermé dans son propre corps, c'est possible. Moi, je crois que Cézanne avait peur. D'ailleurs, dans ses ciels, ça se voit. Enfin, il invente le ciel. Et il le traduit tel que la peur le représente au regard. Je t'assure, il y a des ciels, il y a des moments d'avancée, d'avant l'orage, etc., où le ciel d'été, d'Aix ou du Luberon, sont des choses effrayantes. Et le ciel de Cézanne est effrayant, beaucoup plus effrayant, je crois, même que le ciel de Van Gogh qui tournoie. Le ciel de Van Gogh, n'est-ce pas, est une espèce de... Le soleil de Van Gogh est une espèce de tournoiement, de roue. Peut-être un peu trop intentionnel. Van Gogh n'était pas de ce pays. Van Gogh, je crois, a fait une traduction. Tandis que Cézanne l'a ressenti corporellement. Enfin, nous sommes tous maintenant persuadés que le poème sort du corps. L'écriture est corporelle. Je crois que chez Cézanne, l'écriture picturale était corporelle. Nous sommes partis, nous l'avons dit, nous sommes partis du noir, nous sommes partis du noir humide. Nous sommes partis d'une espèce, non pas d'eau, mais d'humidité profonde, enfin d'un suintement noir. Nous avons traversé la ville et, chose assez curieuse, les platanes du cours Sextius ou du cours Mirabeau étaient presque aussi noirs. Le sol était presque aussi noir que le jardin. Et c'était encore ça. Puis ensuite, nous avons traversé, donc nous sommes engagés sur la route du Toulonnais, et nous sommes tombés sur un chemin presque apaisant. Un vert, quelques roses, qui, assez doux, assez puits, passé par le Toulonnais avec ses immenses platanes. Et maintenant, nous sommes dans quelque part où l'ombre n'est plus l'ombre du jardin. C'est une ombre légère, enfin, c'est une ombre. Et nous allons vers le blanc. Et le blanc est Sainte-Victoire. Exactement comme si nous traversions le disque de Newton, n'est-ce pas, d'une couleur à l'autre, violet, indigo, bleu. Nous sommes partis du violet, du reste. Nous sommes partis du violet, de violet, indigo, bleu, vert, jaune. Nous avons traversé le vert. Nous sommes maintenant dans quelques jaunes un peu rougeâtres. Les rochers à côté, vert, jaune, orange et rouge. Voilà. Et si nous avançons encore un peu, nous allons arriver sur le blanc, enfin. Alors le blanc, qu'est-ce que c'est? C'est la page vide. Oui, peut-être que cette victoire, au fond, représente la page à rayer. La page à rayer par le tracé, par la peinture, bien sûr.
Le salon ferme aujourd'hui. Et déjà, comme j'en reviens pour la dernière fois, je voudrais aller y revoir un violet, un vert, ou tel ton bleu dont il me semble que j'aurais dû mieux les regarder pour ne les oublier jamais. Déjà, bien que je me sois si souvent attardé devant avec une attention sans faille, la grande architecture colorée de la femme au fauteuil rouge se révèle aussi difficile à mémoriser qu'un nombre à plusieurs décimales. Je m'en étais pourtant imprégné, chiffre par chiffre. La conscience de sa présence exalte ma sensibilité jusque dans le sommeil. Mon sang la décrit en moi, mais le langage reste à l'extérieur sans qu'on l'invite à entrer. Dois-je parler d'elle? Devant une paroi, terre verte, que décore un rare motif bleu de cobalt.
On peut tout d'abord remarquer la persévérance, enfin l'espèce d'enfermement même avec lequel Cézanne s'est attaché à ne peindre que toujours les mêmes d'un paysage familier qui était celui d'Aix, que ce soit la montagne Saint-Victoire, que ce soit le château noir devant lequel nous sommes, que ce soit la carrière Bibémousse. Avec la même persévérance que Giacometti peignait inlassablement toujours les mêmes motifs, une chaise, une suspension. J'ai retrouvé là tout à l'heure cette phrase extraordinaire de Cézanne qu'il a dite à son fils quelques jours avant sa mort. Il disait: je pourrais m'occuper pendant des mois sans changer de place, en m'inclinant tantôt plus à droite et tantôt plus à gauche. Et Giacometti, à la fin de sa vie, disait de la même façon: je pourrais passer toute ma vie à ne peindre qu'une seule chaise. En ce qui concerne le château noir, bon, c'est à nouveau, effectivement, comme la montagne Sainte-Victoire, la confrontation d'un paysage végétal, d'un fouillis végétal à la limite de l'ordre et du désordre au premier plan, et puis une structure minérale, ici en l'occurrence faite de main d'homme, et non plus sauvage comme pour une montagne. On peut dire que si la montagne Sainte-Victoire célèbre une espèce de miracle de visibilité, et que cette émergence d'un phénomène naturel, la montagne, au contraire, le château noir joue effectivement sur la dissimulation et sur le cache, et sur les aperçus, sur les fragments, quelque chose qui se laisse voir et non pas quelque chose qui surgit devant le regard. Effectivement, le phénomène de vision est très, très distinct.
Jean-Clair, vous ne pensez pas qu'il y a ici, lorsque nous avons parlé sur la série de la Saint-Victoire, où je disais, je vois les chiffres 1, 2, 3, et la première partie de la base est divisée en général en deux parties. Je trouve devant cette série une variante de cet ordre. Ici, c'est également 1, 2, 3. Je veux dire, je me précise, au premier plan, il y a buisson, arbre, avec une indication de route. La division qui correspond au premier champ dans toute la série des Saint-Victoire, ici, c'est l'indication de la route qui est ici toujours indiquée à gauche,
en oblique.
Après, il y a cette série, alors buisson d'arbre, et alors la Sainte-Victoire est presque remplacée ici par cet château, et qui a également une indication rythmée par trois. Il y a la base, les roches, qui est toujours indiquée à droite, sauf une fois, il n'est pas visible, mais curieusement, le rythme de 1, 2, 3 est respecté dans les bâtiments, dans les parties de bâtiments. Ici, dans la deuxième, première base, les roches, après cette terrasse, et après le bâtiment. Thank you.
Je me demande si Cézanne a jamais fait l'excursion de Sainte-Victoire. Je voudrais bien savoir si c'est engagé comme ça, à piétiner, à racler les rochers. Ça, je ne sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il tournait autour de l'objet. Il respectait. Il le regardait d'assez loin pour que l'objet surgisse tout entier devant lui. Mais il n'en... Ce qu'il touchait, c'était l'espace entre l'objet et lui. Ce qu'il touchait, c'était une espèce de dialectique couleur-lumière ou transparence-obscurité entre l'objet et lui. Entre l'objet, il y a un espace, il y a un espace épais, un espace construit. Et l'objet lui-même reste sacré. Reste inaccessible.
Enfin, entre lui et Sainte-Victoire, il y a toujours une étendue.
Il y a une étendue, il y a une distance. Et cette distance est pleine. C'est pas une distance vide, c'est une distance pleine. Au fond, il est... Sainte-Victoire devait représenter pour Cézanne une espèce d'aboutissement, de fin en soi. Une fois qu'il aurait... S'il était arrivé à peindre une fois Sainte-Victoire, il se serait arrêté. Il se peut très bien que toutes... Enfin, que les natures mortes, c'est autre chose. Mais que toute la série des baigneuses, ou des baigneurs, soit des espèces de... Peut-être des métaphores de Sainte-Victoire. Ou des tentatives de... Ne prononçons pas le mot allégorie, ça, il est faux. Enfin, mais des figures de Sainte-Victoire, métonymie ou métaphore, j'en sais rien.
Une question à Jörg Ortner comme une question posée à un peintre qui est presque technique. Ici, on a deux tableaux de la Sainte-Victoire, l'un qui est de 1902-1904, qui est juste en face de nous, et puis un autre beaucoup plus tardif, qui est donc de la fin de sa vie, qui est de 1906, tout à fait à droite, là. Et bon, il y a une différence de matière entre les deux qui est très étonnante, c'est-à-dire que le premier... ressemble à une aquarelle très poussée, mais une aquarelle, ce que l'on peut comprendre d'ailleurs dans la mesure où l'on sait que Cézanne utilisait une brosse très très peu chargée, où la peinture séchait immédiatement, ce qui lui permettait de revenir par-dessus, un peu comme une technique d'aquarelle donc. Donc toujours cette histoire de touche. Bon. Au contraire, le tableau de 1906, donc de la dernière année de sa vie, lui est extrêmement empâté, extrêmement épais, exactement comme dans les portraits du jardinier Vallier qui sont au second étage. Et j'aimerais demander à Jörg Ortner s'il a une explication sur ce passage qui s'est opéré chez Cézanne dans la dernière année de sa vie, d'un métier extrêmement fluide et très peu chargé, qui ressemble à de l'aquarelle, un métier au contraire extrêmement empâté, et qui d'une certaine façon revient aux empattements des toutes premières années de sa vie, quand à sa période couillarde de ses premières années.
Cézanne a un problème énorme. Il se trouve devant une rupture de pratique technique absolument énorme pour arriver de faire un tableau solide. Tous les tableaux qu'il appelle les tableaux couillades, c'est en réalité une expérience absolument vertigineuse, sensuelle, au niveau de la matière, la pâte, l'huile, le couteau, la touche à la Monticelli. Une expérience où ce côté sensuel est donné immédiate, mais avec une sorte de matérialité. Cette matérialité...
elle se transforme petit à petit, et je, pourquoi pas de lui dire aussi cette sensualité qui a un côté également érotique, qui au départ à la surface, elle va s'intégrer carrément dans l'espace phénoménologique et dès la touche. Mais comment faire et faire une construction stable, qui a vraiment cette stabilité absolument incroyable, comme par exemple Titien arrivé avec cet accord de main, une main donnée et une autre main qui doit être accordée. Cézanne peut seulement le réaliser, et ça c'est sa aventure, à partir du moment qu'il trouve qu'il faut donner une première touche qui est considérée comme rapprochée à l'œil, qui est déjà une fiction, parce qu'on ne peut pas poser un ton local sur une surface blanche. Ça, c'est son grand problème. C'est-à-dire un accord n'est pas possible. À partir de ces tons, il cherche un deuxième fixe et il les cherche à partir de ceux deux, l'intervalle ou les intervalles, et ainsi de suite. Parfois, évidemment, si les tableaux sont très travaillés, il est obligé de rectifier le premier touche qu'il a posé, parce que le premier touche a toujours la tendance de perfectionner un ton local, disons, idéal, qu'il est obligé de rectifier. Alors, c'est pour cela, à mon avis, pour revenir à ces deux tableaux, où un est très léger, finalement, le principe ne change pas. Pour moi, c'est seulement... Qu'est-ce qui change? C'est l'intensité, jusqu'à quel point il veut pousser l'accord et les intervalles. S'il arrive de définir ou de fixer les intervalles donnés à partir de la première touche d'une manière relativement rapide, en général, ou lorsqu'il il ne veut plus continuer, il cesse. Ici, dans l'autre tableau, il y a une sorte d'intensité d'accorder, toujours avec une plus grande décision, les intervalles. Moi, je crois en plus, il y a une autre chose pourquoi ce tableau est tellement travaillé. D'ailleurs, ils ont une relation. C'est que dans les autres, il y a toujours, qu'est-ce que j'appelle dans la partie basse, il y a cette ligne horizontale qui rentre toujours vers la droite, n'est-ce pas? Et dans les deux tableaux, ce n'est pas le cas. Et ici, il y a un centre lumineux, c'est-à-dire le système de la ligne droite se transforme dans un centre lumineux qui entoure une tache plus foncée.
Toujours peur devant quelque chose comme cette victoire de mêler la chose qu'elle est, c'est-à-dire ce que nous voyons comme ça, cette espèce de mur. On dit il est blanc, il n'est pas blanc, il est grisâtre, il est un peu rosé à la base. Il y a des taches que nous supposons vertes, que nous voyons vert noir, enfin. Il y a une espèce de... Elle est recouverte par une espèce de lèpre. Et on dirait... Oui, on dirait un mur qui se délite un peu. Et en effet, c'est de la roche tendre, c'est du calcaire. Très certainement, elle est très dangereuse. Très dangereuse aux grimpeurs. Beaucoup de gens sont morts en essayant de la gravir. Pourtant, nous savons qu'on peut l'atteindre, qu'on peut la contourner, qu'on peut l'atteindre. Chose curieuse, Cézanne ne l'a jamais contournée. Il n'a jamais voulu la voir de l'autre côté. Il est resté devant une présence redoutable. On a l'impression qu'il l'humanise de moins en moins. Il la il la concrétise de moins en moins. Finalement, il en fait, oui, un objet sacré. Enfin, alors, est-ce que l'abstraction est une sacralisation? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le ciel est d'une pureté assez parfaite. Et on a l'impression que le ciel, l'azur qui borde le blanc des crêtes, comme les tuiles, comme certains arbres, que le ciel se fonce en... que le ciel devient violet. Alors nous retombons sur le ciel de Cézanne, enfin, sur le bleu de Cézanne. Est-ce que le bleu de Cézanne n'a pas été déterminé par cette espèce de contact pris par les pierres et le ciel. Dans les étés, méditerranéens, le ciel au zénith est relativement clair, est relativement abordable, et dès qu'on approche d'une verticalité quelconque, toiture, muraille, arbre ou crête de Sainte-Victoire, le ciel sur une espèce d'espace se fonce, devient violet, presque à Gordes il devenait presque rouge à certains moments. Alors là, est-ce que Cézanne n'a pas vu ça à sa façon et refait le bleu du ciel qui devient le bleu de Cézanne?
T'ai-je parlé d'elle devant une paroi terre verte que décore un rare motif bleu de cobalt, une croix au centre évidée, et placé un fauteuil bas, rouge, capitonné. Le dossier arrondit sa curve en avant vers les accoudoirs, fermé comme l'extrémité des manches d'un manchot. L'accoudoir de gauche et le gland saturé de vermillon qui en pend n'ont déjà plus pour fond cette paroi, mais une large bordure bleu-vert qui donne à leur contraste sa pleine résonance. Dans ce fauteuil rouge, un personnage à lui tout seul, une femme est assise, les mains.
En considérant les natures mortes, en particulier alors ces thématiques pomme, table, en tout cas la scène qui se passe toujours sur la table, disons, je crois que c'est l'intermédiaire vers une érotisation de l'espace, où ici il s'en sert encore des objets. J'étais toujours très frappé, particulièrement lorsqu'on regarde les pages du catalogue Venturi, que la présence du couteau à droite, je crois qu'il y a un seul cas où le couteau est à gauche, mais il y a 30 tableaux où il y a toujours la présence du couteau. Parfois, il est remplacé par l'angle de la table, ou par un pli qui a une fonction de fermeté. D'autre part, les nombres des vases à la disposition au-dessus à la fin de la table qui sont ouvertes. Il vient de nouveau très fort le chiffre 3 ou 2, des variantes multiples. Par exemple, ici, dans cette nature morte, il y a l'angle à droite, il y a le couteau à droite, donné à la main, et le pli continue la ligne. Il y a très souvent un axe qui part de l'angle droit en bas. Dans cette aquarelle à gauche, il est très curieux que le couteau est remplacé par une tige d'une casserole où la casserole est absente. La périphérie du champ visuel, évidemment, ne peut pas être traitée de la même manière dans les natures mortes. Il y a là un problème. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus facile pour lui de les réaliser dans les aquarelles des natures mortes. Mais évidemment, dans cette série de Saint-Victoire, l'élément périphérique et sa fonction vient très 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 important.
Oui, évidemment, on est assez frappé par la redondance obstinée de cette présence des pommes chez Cézanne, les fameuses pommes qui reviennent perpétuellement ponctuer la surface et de ces toiles et de ces tables représentées sur les toiles. Quand on se réfère à l'énorme difficulté, cette espèce d'impuissance qu'il avouait si volontiers à représenter les pommes, on peut se demander effectivement si, comme vient de le dire Hortner, il n'y a pas une connotation, un nœud érotique ici très, très puissant, très fort, souligné par la présence de ce couteau, trop évident pour ne pas recéler quelques symbolismes qu'on a tort, effectivement, nous en parlions tout à l'heure, de dissimuler dans l'œuvre de Cézanne. Seulement, ce qui est passionnant chez Cézanne, c'est que cette pomme, c'est jamais la sphère parfaite de Platon, c'est jamais le corps géométrique régulier, c'est un fruit, ça reste un fruit charnu, et pas du tout un objet mathématique et conceptuel. Je crois que c'est là, à mon avis, tout le mystère et l'intérêt de la peinture de Cézanne, et en quoi la pomme me semble être à la fois l'emblématique de cette peinture et l'emblématique du regard cézannien porté sur la nature.
Les natures mortes, on a l'impression d'abord d'une envie de luxe, de plaisir, des couleurs. Malgré tout, ces oignons sont pas si abstraits que ça. On a quand même envie de les manger. Ils sont le cercle parfait. D'accord. Mais les natures mortes de Sainte-Victoire, c'est un mot lapsus. Les natures mortes de Cézanne me donnent une impression. Moi, elles me donnent une impression de volupté. Sauf une. À un moment donné, il y a celle, je crois, qui est au musée, qui vient de Cardiff. Vous savez que la plupart, elles sont presque toutes peintes devant une espèce de brocart, n'est-ce pas, de tapisserie assez épaisse. On dirait quelque chose, un peu un objet du XVIe siècle. Et dans cette nature morte-là, brusquement, le brocart, la tapisserie est complètement écrasée sur la table. Elle recouvre presque les fruits et les assiettes. Et le fond est complètement. Et le fond du tableau est devenu complètement noir. Il me semble que c'est le tableau de la mort.
Croisé de motifs gris. J'aurais dû dire un blanc métallique particulier, genre aluminium, car le gris, à proprement parler, est absent des tableaux de Cézanne. Son regard infiniment pictural ne le laissait pas subsister en tant que couleur. Il le sondait et y trouvait du violet ou du bleu, du rougeâtre, du vert.
La seule question est, qui est capitale, qui est peut-être identique ou quand quelque chose est achevé ou pas, c'est quand il faut arrêter. C'est ça la question. Achever serait alors j'arrête.
Oui, qui est une décision, en l'occurrence, purement arbitraire. Je crois que le problème de l'inachèvement chez Cézanne est lié profondément au problème du commencement. Il ne peut pas plus achever une toile qu'il ne peut en commencer une toile. C'est-à-dire que cette espèce d'impuissance devant la toile blanche que j'évoquais tout à l'heure, c'est la même impuissance qu'on retrouve de l'autre côté du phénomène peinture, au moment où il s'agit de prendre la décision d'arrêter. Mais c'est une décision que rien ne peut fonder en raison. À cet égard-là, les toiles de Cézanne ne sont jamais que les fragments perpétuellement, et c'est pour là où on retrouve le phénomène de la série, les fragments perpétuellement promulgués, si vous voulez, d'un ensemble à tout jamais inconnaissable et qui n'existera jamais, qui serait précisément le chef-d'œuvre inconnu.
Paul Cézanne, par Jean Dève et Bruno Sourcy, avec Jörg Ortner, Jean Clair, Jean Tortel et des lettres de Rainer Maria Rilke.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture dans les Nuits Magnétiques des 20 et 21 janvier 1978. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».